toca a ti, toca a ti.
Bonsoir, 108 sénateurs devront être élus le vendredi 19 janvier prochain. La campagne électorale pour l'élection des sénateurs a commencé hier lundi 15 janvier et se poursuivra jusqu'au 17 janvier 2007. Il faut dire que l'élection des sénateurs est une étape importante dans la mise en place de nouvelles institutions du pays, en ce sens qu'elle permettra au Parlement d'afficher complet. Le Sénat pourrait ainsi participer avec l'Assemblée nationale au vote de loi et au contrôle sur le gouvernement, les entreprises publiques, les établissements et différents services publics. Autre détail important, c'est qu'en cas de démission, de décès ou d'empêchement définitif du chef de l'État, c'est le président du Sénat qui assumera provisoirement ses fonctions jusqu'à l'élection du nouveau chef de l'État. Comment se préparent ces élections sénatoriales et quels en sont les enjeux? C'est autour de ces deux questions que s'articulera l'émission Dialogue entre Congolais de ce soir. Quatre invités sont là pour en discuter. Dieudonné Mirimo Mulongo, rapporteur de la Commission électorale indépendante. Jacques Fumunzanza, candidat sénateur de Kinshasa pour la coalition AMP Palu Udemo. Bernard Likunde, candidat sénateur de Kisangani dans la province orientale pour la plateforme Union pour la Nation. Il intervient depuis cette ville au téléphone. Enfin, le professeur Philippe Bioya, enseignant à l'université de Lubumbashi et à l'université protestante du Congo et analyste politique. Nos auditeurs n'ont pas tardé à réagir, tel Arsène Lungele de Bukavu au Sud Kivu, qui pense qu'il y a déjà tricherie au Sud Kivu, car pour un même territoire, on leur impose trois candidats. Tandis que Balola de Butembo dans la province du Nord Kivu s'attend à une cacophonie ou mésentente entre ces deux chambres du Parlement. Enfin, Simon Lubila de Kananga dans la province du Kasaï occidental ne trouve pas le Sénat important parce que d'après lui, son rôle se confond à celui de l'Assemblée nationale.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-8-999-222.
Commencée depuis hier lundi, la campagne électorale au poste de sénateur a été lancée dans la ville de Matadi notamment. 52 candidats sont en liste pour 4 sièges dans la province du Bas-Congo. Outre les médias et d'autres moyens, la résidence officielle du gouverneur de province, siège provisoire de l'Assemblée provinciale du Bas-Congo, est le lieu où les candidats sénateurs présentent leur programme. De Matadi, notre confrère Guy Roger Nyampala nous parle du déroulement de cette campagne pour la sénatoriale.
C'est dans une salle remplie de monde que les candidats sénateurs passent pour convaincre les 30 électeurs, c'est-à-dire les honorables députés provinciaux, à les élire. Cela en présence du représentant de la CEI. Avant de commencer, le président du bureau procède à l'appel nominal des candidats. Cette journée de mardi est réservée pour les candidats sénateurs indépendants qui sont plus d'une dizaine, dont une femme. Chaque candidat dispose de 10 minutes pour passer un message à l'intention de l'auditoire. J'ai besoin de vos voix pour représenter valablement la province à la Chambre haute du Parlement. Dès que je suis élu par vous, je vais requalifier les contrats qui nous lient avec les entreprises qui exploitent le pétrole à Mwanda. Ou encore, le développement doit commencer dans nos villages. Ce sont des promesses des candidats sénateurs auprès des députés provinciaux pour obtenir leur voix. Signalons que l'un des candidats a même offert une somme de 1 million de francs congolais au bureau de l'Assemblée provinciale du Bas-Congo, séance tenante. En réaction, Kisombe Kakoumissi, vice-président de cette assemblée, estime que le moment n'est pas indiqué et qu'il est anormal d'accepter une telle offre. Cette campagne électorale de sénateurs se poursuivra demain pour le parti politique. Matadi, Guy Roger Nyampala, Radio Kapi.
Je me tourne d'abord vers vous, Monsieur Dieudonné Mirimo. Je rappelle que vous êtes président de la commission, rapporteur de la commission électorale indépendante. On vient de suivre ce reportage de Matadi. Il y a même un candidat qui a mis en jeu 1 million de dollars. Est-ce que c'est comme ça que devrait 1 million de francs congolais? Est-ce que c'est comme ça que devrait se dérouler en principe cette campagne électorale pour l'élection des sénateurs?
La campagne électorale pour l'élection des sénateurs n'est pas différente de celle des présidents de la République et des députés nationaux et provinciaux. Peut-être la seule différence, c'est que les élections passées avaient comme électorat près de 25 millions d'électeurs, mais l'élection des sénateurs concerne plus ou moins 690 électeurs, donc les députés provinciaux scrutés indirects. Donc il faut battre leur campagne parmi ces députés provinciaux, en utilisant tous les moyens possibles, les réunissant dans une salle pour expliquer leur projet pendant que lorsqu'ils seront élus au Sénat. Et donc je crois que c'est de cette manière-là que ça se passe sur l'ensemble du territoire national.
Voilà, nous avons également dans ce studio Monsieur Jacques Fumunzanza. Vous êtes candidat sénateur de la ville de Kinshasa pour la coalition AMP Palou UDEMO. Nous venons de suivre ce reportage de Matadi. Est-ce que c'est comme ça, d'après vous, que devrait se passer la campagne électorale, mettre par exemple beaucoup d'argent pour séduire les députés provinciaux qui auront à vous élire, vous?
Je ne sais pas. D'abord, avant de pouvoir répondre à cette question, je voudrais saluer les vos auditeurs et en même temps souhaiter une excellente année 2007 aux auditeurs et à tous ceux qui écoutent les radios Okapi. Les sénateurs sont élus effectivement par un électorat réduit, les députés provinciaux. Donc ce qu'on appelle le responsable de la CIF vient de le dire, le suffrage indirect. Le problème d'argent, je crois que c'est une autre question. Et nous savons qu'effectivement, les assemblées provinciales sont en difficulté parce qu'on n'a pas préparé. On aurait dû préparer une année avant, 2 ans avant, sachant qu'il y aura des assemblées et prévoir des salles, prévoir des auditoires où les assemblées, les députés devraient se réunir. Il n'y en a pas. C'est, même ici à Kinshasa, c'est terrible. Ils se réunissent dans une paroisse. Et le dimanche, quand ils ont voté le bureau définitif, ils l'ont fait dans un petit bureau de réunion de l'hôtel des villes. Bon, qu'un député, plutôt un candidat, ait proposé de l'argent, ça, ce n'est pas une question que nous devons traiter ici.
Voilà. Vous venez également de suivre ce reportage, Monsieur Bernard Likoundé. Je rappelle que vous êtes candidat sénateur de Kisangani dans la province orientale pour le compte de la plateforme Union pour la Nation. Votre réaction par rapport à ce reportage que nous venons de suivre de Matadi?
Oui, merci beaucoup pour l'avoir songé à moi. Tout d'abord, je présente mes vœux de bonheur et de félicité pour le peuple congolais tout entier. Que le Seigneur nous accorde la paix, afin d'amener à bon père la processus donc de la démocratisation.
Répondez à la question, s'il vous plaît.
Allez-y. À ce qui concerne les élections sénatoriales, je crois que ça dépend. Il y a des instructions. Il y a des instructions qui ont arrêté à ce que cette procédure soit effectuée. C'est nous à Kisangani. Aujourd'hui, nous avons commencé la campagne par l'appel de députés provinciaux de la circonscription électorale de la Tchopo et de Kisangani. Ils ont invité tous les candidats sénateurs pour que chacun parle de ce qu'il a, de ce qu'il compte faire pendant cette période de mandat sénatorial.
Mais comment d'abord réagissez-vous par rapport à la campagne telle qu'elle se passe au niveau du Bas-Congo? Est-ce que ça se passe normalement d'après vous?
Oui, chez nous, aujourd'hui, il y a eu d'abord prise de contact et de présentation. C'est ce qui se fait aujourd'hui à Kisangani.
J'ai l'impression qu'on ne se comprend pas, M. Likoundé. Je vous demande d'abord de réagir par rapport à la campagne électorale telle qu'elle se déroule au Bas-Congo à Matadi, où on voit les candidats exhiber l'argent pour se faire élire, par exemple. Est-ce que vous trouvez que ça se déroule normalement?
Non, ça. Je crois que ça, c'est une autre démarche que vous me posez comme question. Au Bas-Congo, l'argent circule. Mais si l'argent circule, c'est parce que la maturité politique n'a pas encore atteint le peuple congolais pour élire celui qui doit le représenter dans tel ou tel mandat politique. Mais s'il s'agit de voter quelqu'un, parce qu'il vous a donné à boire, il vous a donné l'argent, il vous a donné ceci, cela, je crois que ce n'est pas ça. Il faut plutôt voter quelqu'un que vous le connaissez, ce qu'il a déjà fait, ce qu'il a déjà effectué pour l'intérêt du peuple et sa maturité politique, et s'il sera valable pour nous le présenter là-bas. Parce que l'argent trompe, hein, lorsqu'on me donne l'argent aujourd'hui, et qu'on achète ma morale, et que demain on me vote, et je pars là-bas pour ne rien faire, et je ne sais pas si cette procédure est normale. Moi, je ne trouve pas ça que c'est normal.
Est-ce que vous pensez que... Oui. Monsieur Bernard Likounde, est-ce que vous pensez qu'il aurait fallu voter les sénateurs au suffrage universel direct, comme ce fut le cas avec les députés nationaux, pour qu'il n'y ait pas de risque d'élire de mauvais sénateurs, peut-être par une portion seulement de la population constituée des députés provinciaux?
Mais au contraire, je crois que je ne peux pas changer les instructions, hein. La loi, la Constitution a prévu comme cela. Je ne peux pas parler le contraire de ce qui a été prévu par la Constitution. Et moi, je trouve plutôt que lorsque les sénateurs sont élus par les députés, qui sont élus par le peuple directement, là, on trouve chez les députés les intellectuels, les jamais, je suppose. Et ce sont ceux-là maintenant qui vont essayer de désigner, de voter les sénateurs valables, sans tenir compte de l'argent, tenir plutôt compte de leur passé politique. Parce que le mandat sénatorial, ce n'est pas un mandat du début du début politique, c'est plutôt quelqu'un qui a déjà effectué beaucoup d'actions. Et depuis, il a commencé la politique il y a un peu longtemps, il a des expériences, alors il va continuer maintenant parce que les lois du Sénat, nous connaissons, il ne peut pas définir ici,
On va revenir à vous, M. Bernard Likounde. Je me tourne vers vous, M. Dieudonné Mirimo. Je rappelle que vous êtes rapporteur de la commission électorale indépendante. La campagne se déroule pendant 3 jours, du 15 au 17. Est-ce que c'est suffisant d'après vous?
Je crois que c'est suffisant parce que c'est le législateur qui a fixé le délai de 3 jours et nous appliquons cette loi, raison pour laquelle dans le calendrier que nous avons rendu public, nous avons indiqué que les différents candidats sénateurs auront 3 jours, soit du 15 au 17 janvier, pour battre leur campagne. Et comme vous vous rendez compte, l'électorat est réduit, donc c'est entre 25 et 50 personnes. Ils peuvent facilement terminer leur campagne pendant les 3 jours. D'ailleurs, ils les contactent même en dehors des dates que nous avons indiquées de campagne, parce qu'ils se rencontrent à la cité, ce sont soit des amis, des copains, et donc les 3 jours sont largement suffisants pour battre campagne.
Voilà, si tout se passe plus ou moins normalement au Bas-Congo, ce n'est pas le cas au Nord Kivu. Dans cette province, la Cour d'appel a approuvé les requêtes en contestation déposées par 2 Bami, c'est-à-dire des chefs coutumiers. Cela après la cooptation des chefs coutumiers du Nord Kivu à l'Assemblée provinciale. La Cour a donné raison aux Bami Ndeze Paul et Boutiti Bigiwa Jean Bosco. Ils avaient dénoncé leur exclusion de la salle de cooptation. Par contre, la même juridiction s'est déclarée incompétente quant à la requête en annulation introduite par Mwami Kalinda Ndandou face aux dispositions du ministère de l'Intérieur. Concernant le premier cas, la Cour demande donc à la CEI de reprendre la procédure de cooptation à laquelle doivent prendre part les Bami réhabilités par la justice. Les détails avec notre confrère Sylvestre Kilolo depuis Goma au Nord Kivu.
Le verdict de la Cour d'appel de Goma est tombé jeudi 11 janvier dernier. C'était à l'issue des 2 audiences où les plaignants et la CEI passaient tour à tour défendre et répondre devant la Cour. La Cour d'appel de Goma reproche à la CEI, selon son président Jean Ekofo, d'avoir laissé au seul Bami de gérer l'affaire des cooptations et soutient que ce qui est mal fait doit être corrigé.
La procédure n'était pas bien suivie. Il fallait que le représentant de la commission électorale indépendante dirige cette affaire-là. Et il n'a pas dirigé, il a laissé le pouvoir entre les chefs coutumiers.
Cette décision donne satisfaction aux plaignants qui disent être contents du résultat obtenu à la justice. Maître Midagou Jérôme est avocat du Mwami Ndeze Paul.
La loi a triomphé sur les irrégularités. Dès lors qu'on s'écarte de la loi, on ouvre la porte aux contestations. Le travail sera recommencé cette fois-ci conformément à la loi.
Signalons que le président de la Cour d'appel indique que la CEI peut interjeter appel de cette décision à la Cour suprême. Pour la CEI, les chefs coutumiers coptés continueront à prendre part aux travaux de l'Assemblée provinciale. Goma, Kilolo Sylvestre, dialogue entre Congolais.
Monsieur Dieudonné Mirimo, on voit que vous ne mettez pas dans la même longueur d'onde que la Cour d'appel de Goma, qui a demandé à ce que vous puissiez valider ou reprendre l'élection, la cooptation des chefs coutumiers qui avaient été exclus de la salle. Et comment se fait-il que vous ne parliez pas de la même voix?
Je crois qu'il est important ici d'expliciter la procédure qui a été mise en place en ce qui concerne la cooptation des chefs coutumiers. C'est le ministère de l'Intérieur qui gère les chefs coutumiers, qui nous a transmis la liste des chefs coutumiers à coopter. Et à chaque fois, nous avons au niveau de chaque chef-lieu de province, un délégué du ministère de l'Intérieur qui a reçu des instructions pour régler les cas de conflits éventuels par rapport à cette liste-là. Et c'est ce qui a été appliqué partout. Maintenant, à Goma, j'apprends que la cour d'appel a demandé à la commission électorale indépendante de reprendre la procédure de cooptation. La CIA a interjeté appel à la Cour suprême de justice et nous attendrons donc que la Cour suprême de justice se prononce. Mais il est important ici que l'opinion retienne que ce n'est pas suspensif. Donc les chefs coutumiers qui ont été cooptés vont continuer à siéger jusqu'à ce que la Cour suprême de justice se prononce sur la requête qui a été introduite par la CIA.
Donc vous voulez dire qu'à 3 jours, à 4 jours de l'élection des sénateurs, les mêmes chefs coutumiers qui sont contestés pourront participer à cette élection?
Ils vont participer à l'élection parce qu'ils vont continuer à siéger, comme je l'ai dit, du fait que la CEI a interjeté appel.
Mais si la Cour suprême donne une décision contraire à celle de la CEI, est-ce que vous allez annuler ces élections sénatoriales pour vous conformer à la décision ou à l'arrêt de la Cour suprême de justice?
Bien sûr que nous allons le faire. C'est ce qu'on fait d'ailleurs parce que la Cour suprême est en train d'examiner les recours de l'élection de députés nationaux. À chaque fois qu'on valide un candidat, la Cour nous transmet l'arrêt et on écrit à l'Assemblée nationale. Et celui qui a été accepté par l'arrêt de la Cour suprême est validé à l'Assemblée nationale. Donc on ne peut pas, pendant que le processus est en cours, demander aux députés ou au chef coutumier qui a été coopté de ne pas siéger tant que l'institution suprême, qui est la Cour suprême de justice, ne s'est pas encore prononcée.
Donc vous voulez dire que malgré les quelques problèmes qu'il y a par exemple au Nord Kivu concernant la cooptation des chefs coutumiers, ce 19 janvier, il y aura partout dans le pays l'élection des sénateurs?
Il y aura élection partout comme dans d'autres provinces.
Qu'est-ce que vous dites des propos d'Arsène Lungele de Bukavu dans la province du Sud Kivu qui pense qu'il y a déjà tricherie au Sud Kivu car pour un même territoire, on leur impose 3 candidats.
Les sénateurs représentent la province. Il n'est pas sénateur d'un territoire et nous avons enregistré sur l'ensemble du territoire national 1127 candidats. Et pourtant, nous avons 145 territoires. Donc, s'il fallait parler en termes d'imposer, on a imposé pratiquement, si c'est ça le terme de l'auditeur, plus de candidats par territoire par rapport au territoire que nous avons. Donc, ce sont les candidats qui se sont conformés à la loi, qui ont déposé leur dossier, et la commission électorale indépendante a publié la liste provisoire après que certains aient introduit les recours à la Cour suprême. La CIA a publié la liste définitive sur base de laquelle les élections vont être organisées le vendredi 19 janvier 2007. Donc il n'y a pas de tricherie. Tout va se passer dans la transparence. Il y a des témoins, il y a des observateurs qui seront dans la salle où vont se dérouler les élections.
Voilà, je me tourne vers vous, monsieur Jacques Fumunzanza. Vous êtes candidat sénateur de Kinshasa pour la coalition AMP Palou UDEMO. Rapidement, avant que nous passions à la deuxième partie de cette émission, il y a monsieur Hendrik Kukangwama de Kikwit dans la province du Bandundu qui veut savoir si la cooptation des chefs coutumiers est objective. Est-ce qu'on a tenu compte de leur niveau d'études? Parce qu'ils vont participer à l'élection des sénateurs, ceux qui ont été cooptés.
Je crois que la question est trop compliquée. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voudrait savoir exactement. La cooptation des chefs coutumiers répond à ce que la loi a édicté. Et dans la loi, il n'est pas question d'études. Je ne pense pas qu'on ait imposé que quelqu'un, un chef coutumier, devrait avoir tel diplôme pour être coopté. Je crois que la condition ou les conditions ont été remplies par les chefs coutumiers qui ont été cooptés.
Et Monsieur Bernard Likoundé, vous intervenez à partir de Kisangani. Comment répondez-vous toujours à ce même à la question de Monsieur Hendrik Kukangwama?
Mon cher ami, la loi laisse la loi, quel que soit le niveau d'études de chef coutumier, il est chef coutumier et il a rempli les conditions parce qu'il est chef coutumier, il est désigné par les siens, conformément à la loi, conformément à la Constitution. Je ne vois plus comment nous devons rester ici, c'est déjà arrêté par la loi. Moi, je trouve que c'est mal.
Voilà. Monsieur Dieudonné Miromo, il y a Monsieur Bidundu Wilma de Bukavu, toujours dans la province du Sud Kivu, qui pose la question suivante. Pourquoi les candidats sénateurs versent-ils une caution inférieure à celle des candidats députés nationaux alors qu'on parle de la Chambre haute et de la Chambre basse?
Oui, moi je crois que c'est la loi qui a fixé les cautions à verser par les différents candidats aux différentes élections. Et c'est en application de cette loi, donc, nous avons demandé aux candidats sénateurs qui ont déposé leur dossier de verser cette caution-là, qui est déjà déterminée dans la loi.
Voilà. Quels sont les enjeux de ces élections sénatoriales? C'est la deuxième partie de cette émission. Je rappelle que nous avons aussi dans ce studio le professeur Philippe Bioya. Bonsoir, professeur.
Bonsoir, Claude.
Vous enseignez les relations internationales à l'université de Lubumbashi au Katanga et à l'université protestante du Congo, mais vous êtes invité ici à cette émission en tant qu'analyste politique. D'après vous, quels sont les véritables enjeux de cette élection sénatoriale?
Ben, je crois que ces enjeux, il ne faut pas les chercher ailleurs que dans l'enjeu qui aurait dû être global pour tout le processus, parce que c'est un processus qui provient d'un dialogue intercongolais qui avait pour principal enjeu l'instauration d'un nouvel ordre politique institutionnel. Et c'est là où il faut mettre l'enjeu général, et lorsque peut-être on parcourt, si on prend la constitution, ne fût-ce que l'exposé des motifs ou son préambule, on a l'impression, c'est l'analyste qui précise, et que l'élection sénatoriale devait trouver tout son intérêt, toute son importance dans, je crois, la première préoccupation à laquelle la nouvelle constitution devait répondre, d'instaurer un État et aussi de traiter la question de la souveraineté, parce que il me semble que c'est autour de la question de l'État et de la souveraineté que les législateurs ou les constituants a essayé de nous dire exactement comment vont fonctionner les institutions et où on met à profit, semble-t-il, les provinces pour lesquelles les sénateurs ont principalement, je crois, mandat de représenter la province. Et j'ai donc l'impression que nous devrions fondamentalement inscrire cette élection sénatoriale dans l'enjeu global d'un nouvel ordre politique institutionnel. Et je voudrais aussi considérer que tous ceux qui seront élus, les sénateurs comme les députés, ils vont lire la Constitution, ils ont lu certainement la loi électorale pour s'imprégner des missions qui sont les missions du législatif, et ils devront être capables de nous présenter des lois capables de nous conduire dans une nouvelle république.
Professeur Philippe Bioya, mais nous avons, en recevant les différentes questions et opinions de nos auditeurs, nous avons nettement l'impression que nos auditeurs n'arrivent pas bien à faire la différence entre l'élection des sénateurs et celle des députés nationaux. Nous avons beaucoup de questions dans ce sens. Tenez, il y a par exemple M. Denis Kalenga depuis Kinshasa qui veut connaître le rôle du Sénat et la différence qu'il y a entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Il y a aussi M. Gustave Minga de Kanan, dans la province du Kasai occidental, qui veut savoir pourquoi avoir des sénateurs tant que nous avons déjà de députés nationaux. Il y a Élisée Tchérou de Bukavu dans la province du Sud Kivu qui veut aussi connaître le vrai rôle du Sénat et si l'Assemblée nationale ne suffit pas. Il y a aussi M. Simon Lubila de Tananga dans la province du Kasai occidental qui ne trouve pas le Sénat important parce que selon lui, son rôle se confond à celui de l'Assemblée nationale. Que leur répondez-vous?
Ben écoutez, c'est pas le lieu de faire un cours de droit constitutionnel ici. Je crois que ce sont des gens qui devraient chercher à se renseigner mieux du côté de ce cours-là, parce qu'ils doivent savoir que nous avons là un parlement qui est bicaméral, un parlement qui a deux chambres. En fait, la chambre haute, presque partout dans le monde, est considérée comme une chambre de sagesse. Elle a été instituée à l'origine pour éviter la dictature, en fait, de la chambre basse. Et surtout lorsque l'on sait que les députés sont élus au suffrage universel direct, qui représente la nation, il y a toujours un danger de dictature, un danger de vouloir en fait trop symboliser à elle seule peut-être la nation qui peut conduire en fait à certaines dérives. Et il y a même des critiques peut-être constitutionnalistes qui voient peut-être pas très très bien la raison d'être du Sénat, qui pense peut-être que c'était une méfiance vers le peuple, mais c'est le Sénat est institué comme une chambre de réflexion, si je peux dire jusqu'ici. Ben, s'ils lisent la Constitution, ils verront bien les différences qu'il y a entre la Chambre basse et la Chambre haute, faisant pratiquement presque le même travail.
Voilà. Nous allons à Kisangani où intervient au téléphone M. Bernard Likunde. Je rappelle que vous êtes candidat à sénateur de Kisangani pour le compte de la plateforme Union pour la Nation. Comment voyez-vous, vous en tant que candidat à sénateur, les enjeux de cette élection sénatoriale?
Les enjeux de cette élection sénatoriale, comme a dit l'autre là, sont les que
le professeur
le
Sénat, Bio, oui.
Le Sénat a son rôle. Le Parlement, comme le député aussi, a son rôle, le Parlement. Alors, ces deux rôles sont définis par la loi. Partout au monde, dans certains pays, il y a le Sénat, il y a l'Assemblée. Alors, il n'y a pas de compatibilité. Chacun joue son rôle important. Le problème qui est là est que ceux qui seront désignés au Parlement, tout comme au Sénat, que ce soit des hommes intègres, des hommes conscienciés et des hommes qui vont vraiment diriger, contrôler le gouvernement, c'est pratiquement pas de conflit, pas de sentiments, et rien que pour l'intérêt du peuple. Donc moi je trouve qu'il n'y a pas de confusion entre le Parlement et le Sénat, parce que ça n'existe presque partout, bien entendu que dans certains pays du monde, d'autres pays n'ont pas de Parlement, ils n'ont que le Sénat, peut-être. Ailleurs il y a des Sénats, c'est cela. Donc moi je ne trouve pas le convenant pour ça, parce que la loi a prévu ça. La loi a prévu ça, il n'y a rien à changer pour le moment. Peut-être plus tard, lorsque nous verrons des compatibilités, des problèmes qui se posent, à ce moment-là, la loi sera changée par la base, comme nous jetons dans le référendum. Voilà ce que moi je donne comme nom.
Nous revenons dans ce studio. Nous avons M. Jacques Fumunzanza, qui est candidat sénateur de Kinshasa pour le compte de la coalition AMP Palou UDEMO. Vous êtes un ancien sénateur du Palou au Sénat de la transition. Mais comment se fait-il, d'après vous, que beaucoup de Congolais, du moins nos auditeurs, n'arrivent pas vraiment à comprendre les vrais enjeux de cette élection sénatoriale? Ils se posent la question, mais pourquoi on vous élit, vous, alors qu'ils ont déjà élu les députés nationaux? Alors, quelle est votre importance?
Exact. Je crois que la constitution de la République que nous avons tous voté au référendum prévoit les pouvoirs traditionnels que nous connaissons, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et à son article 100, le pouvoir législatif est composé d'un parlement, est constitué d'un parlement composé de deux chambres. Le professeur venait de le dire. C'est-à-dire l'Assemblée des députés et le Sénat. Il faut aller dans l'histoire pour pouvoir découvrir cette réalité de deux chambres. Comme venait de le dire notre collègue de Kisangani, il y a des pays qui ont deux chambres et d'autres n'ont qu'un parlement monocaméral, comme on dit. Mais par rapport à l'expérience dont vous parlez, en ce qui me concerne, effectivement, le Sénat dans notre pays est nécessaire, et l'enjeu de ces élections, parce que ce sont toujours les élections législatives qui viennent après celles des députés provinciaux. Nous avons constaté que la relecture des lois qui venaient de l'Assemblée nationale, la relecture faite par le Sénat, a apporté beaucoup. Tout comme quand le Sénat avait commencé une loi et qu'elle allait à l'Assemblée, il y a eu beaucoup d'améliorations, soit des fonds, soit des formes. Donc les deux chambres ne sont pas en concurrence, mais sont des deux chambres qui se complètent. Et le Sénat représente, ou le sénateur représente, les intérêts de la province. Pourquoi? Le professeur l'a expliqué un peu que ici, ou du moins ceux qui ont constitué ces démocraties à deux chambres, on a constaté que la Chambre des députés, qui est constituée des députés élus au suffrage universel par la population ou le peuple, avait tendance effectivement à s'imposer. Et comme dans ces pays, il y avait certains pouvoirs, tels que coutumiers, qui avaient certains intérêts qui n'étaient peut-être pas, comment dirais-je, considérés par l'Assemblée des députés, on a prévu que ces groupes puissent avoir aussi leurs représentants, que les provinces qui avaient des intérêts qui n'étaient pas pris en compte par l'Assemblée des députés puissent aussi être représentées. Donc voilà un peu l'origine, c'est pourquoi maintenant dans notre pays, on a prévu également qu'il y ait une chambre, le Sénat, où les parlementaires, c'est-à-dire les sénateurs, représentent les intérêts des provinces. Et là, je crois que nous partons gagnants, il n'y a aucune perte. Et c'est la Constitution qui a prévu qu'il y ait deux chambres. Et les élections qui se passent au niveau des sénateurs, je crois que ce sont des élections tout à fait légales. Et c'est pour compléter le Parlement qui doit avoir deux chambres. Pour le moment, il n'y a que la Chambre des députés qui est mise en place.
Monsieur Fumonzanza, il y a quand même risque de conflit entre le Sénat et l'Assemblée nationale élue au suffrage universel direct. Il y a par exemple Monsieur Bernard Likoundé, Monsieur Balola de Boutembo dans la province du Nord Kivu, qui affirme, je le cite, on s'attend à une cacophonie ou à une mésentente entre ces deux chambres du Parlement. Qu'est-ce que vous en pensez?
L'expérience que j'ai eue, je n'ai jamais vu de conflit. Il y a eu des divergences, parfois effectivement importantes, par rapport à la lecture d'un article de la loi. Et ça, c'est pour la démocratie, c'est une bonne chose que vous ayez une chambre qui a adopté une loi et qu'une autre constate que tel article ou telle disposition ne convient pas ou est en contradiction avec la Constitution. Et à ce moment-là, la loi a prévu qu'il y ait une commission paritaire, c'est-à-dire entre les deux chambres, donc il n'y a pas de conflit. Et en cas de persistance, ça c'est la Constitution qui le dit, au cas où la divergence entre les deux chambres persiste, c'est l'Assemblée des députés qui est considérée comme une Assemblée des élus du peuple qui statue définitivement.
Donc, justement, est-ce que la loi ne met-elle pas l'accent sur ne met-elle pas l'accent sur le fait que l'Assemblée nationale élue par le peuple directement a beaucoup plus d'importance que le Sénat dans la mesure où en cas de divergence de vue, c'est le point de vue des députés nationaux qui prévaut sur celui des sénateurs.
La question ne doit pas être analysée de cette façon-là. La loi a prévu que finalement, il ne faut pas être bloqué et qu'on considère que... Parce que les deux parlementaires, le député comme le sénateur, c'est un... Comment dirais-je? Son mandat est national comme celui du député, bien qu'il vienne d'une circonscription déterminée comme le territoire. Et la loi a prévu ce mécanisme pour justement que la nation soit gérée de cette façon-là, en harmonisant parfois des contradictions ou des intérêts. Et donc, quand on dit que c'est l'Assemblée des députés qui statue en dernier lieu, si vous estimez que la loi a donné plus d'importance à l'Assemblée à ce moment-là, là, il n'y a pas de problème. Mais je vous dis que dans le vote des lois, par les deux chambres sont à égalité. Le
professeur Philippe Yoya.
Je pense qu'il faut vraiment préciser certaines choses, parce que ce n'est pas la première fois qu'on le fait ici. Si vous prenez par exemple un pays comme les États-Unis, on fait la différence entre par exemple le Sénat et la Chambre basse, parce que le sénateur représente les États principalement, et tandis que le député représente en fait, on peut dire, les individus. Ça c'est une chose. Mais l'autre chose c'est quoi? C'est que dans la technique en fait constitutionnelle partout dans le monde, l'on travaille, contrairement peut-être à ce que celui-là pense, à ne pas faire confiance tellement, parce que tout homme est faillible. Les institutions se construisent par la méfiance aux personnes. Et l'on ne peut pas, si l'on veut faire une bonne démocratie, l'on ne doit pas aller, en fait, tout remettre entre les mains des hommes. On travaille de telle façon à ce que l'on se trompe moins, l'on réduit la marge de l'erreur au niveau de la nation. Il a dit, les sénateurs ont un mandat qui est national comme les députés, mais ils représentent les sénateurs de la province. Nous sommes dans un pays qui va bientôt expérimenter la décentralisation. Je l'ai dit lorsque vous lisez la Constitution, vous ouvrez, je crois, l'exposé des motifs. Là, on nous parle de l'État et de la souveraineté, on dit aussi comment, en fait, la décentralisation va se faire. C'est qu'en fait, il y aura des intérêts spécifiques, par exemple, des régions ou des provinces, qui ne sont généralement pas pris en compte dans le débat général. Il doit y avoir des gens qui, lorsqu'ils font une lecture générale de ce que l'on veut faire dans la nation, qui voient un peu comment réellement sont pris en compte aussi les intérêts de toute la province. Et je pense qu'en faisant ce travail de relecture du travail au premier degré, si on peut ainsi dire, on ne crée pas de conflit. La loi ne peut pas créer, c'est un même Parlement. Le Parlement, il est un seul. Les textes de loi sont les mêmes. Le Parlement peut prendre, la Chambre basse peut peut-être initier une loi qui est élue par le Sénat, comme le Sénat peut prendre l'initiative. On l'a vu ici, la Constitution que nous avons ici, l'initiative venait du Sénat. mais ça a été amélioré peut-être au niveau de la Chambre basse. Et on a eu un texte. Je crois que mieux fallait cette discussion-là que d'avoir un texte qui serait venu peut-être des sénateurs simplement et peut-être qui n'aurait peut-être pas rencontré les volontés générales de toute la population. Donc, il y a un grand conseil constitutionnel à vivre dans un grand nombre de conseillers et les Congolais doivent apprendre que si on veut avoir une démocratie, ils doivent éviter les cultes de personnalité. Parce que les Congolais, à la fois, ils veulent une démocratie pluraliste, mais ils veulent adorer des individus. Mais un député, c'est pas parce qu'il est élu député que nécessairement il a toute l'intelligence nécessaire pour triompher les intérêts même de base qu'il représente. Parce qu'il peut n'est pas à un certain niveau puisqu'il vient d'un parti politique. Il ne vient pas nécessairement de la nation, il n'est pas un chef coutumier. Ah, même un chef coutumier, il viendrait peut-être plaider pour les intérêts de sa communauté quelqu'un d'autre là. Donc il y a des précautions que la loi prévoit pour que l'on ramasse le plus possible ce qui va dans le sens de l'intérêt général. Voilà.
Monsieur Bernard Likoundé, je rappelle que vous êtes candidat sénateur pour le compte de l'Union pour la Nation. Vous intervenez depuis Kisangani dans la province orientale. Est-ce que vous pensez que l'élection des sénateurs soit tout à fait importante dans la mesure où elle permettra au Parlement d'afficher complet et d'analyser les lois d'abord à l'Assemblée nationale et au Sénat pour une seconde relecture? Et puis il y a aussi d'autres dispositions en cas d'empêchement du chef de l'État, c'est le président du Sénat qui pourrait assumer à l'intérieur. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire à cause de cela?
Je vous signale que rien ne peut se faire en dehors de la loi. La loi est votée par le peuple congolais et s'il y aura des conflits, par exemple, ce dont on parle, parce qu'il s'agit de ça, cela veut dire que nous voulons marcher en dehors de la loi. Si réellement les élus du peuple, que ce soit les députés, les sénateurs, s'attelle, travaille à fonction de la loi, je ne vois pas là où nous allons nous promener. On dirait que nous créons des états. Moi, je m'attelle toujours, je me borne sur le respect de la loi. Dès que la loi est respectée, quelle que soit l'appartenance politique, la loi prime sur tout ce qui est comme parti politique, parce que cette loi-là a été rédigée par les politiciens et soumise au référendum. Donc je crois que je ne vois pas là où les conflits doivent en être. Donc sauf s'il y a des problèmes, on réunit la commission comme tout à l'heure, on a un collègue intervenant avec lui tout à l'heure, on réunit la commission mixte pour essayer d'harmoniser le point de vue et on avance. Là on va créer des conflits, ça veut dire que nous travaillons dans l'individualité. Lorsqu'on travaille dans l'individualité, dans les sentiments, tout à fait d'accord. Mais il y a toujours la loi qui doit être respecté.
Voilà, on vous a compris, professeur Philippe Yoya. Il y a M. Romo Zam de Kananga dans la province du Kassai occidental qui veut connaître l'autorité qui peut limoger le président du Sénat et pourquoi pas les sénateurs.
Je réponds à ça. Je voulais d'abord parler de votre première question. Il ne faut pas apprécier l'importance du Sénat par rapport à la possibilité que le président du Sénat remplace le chef de l'État. Parce que c'est un débat qui est anticonstitutionnel et qui est antidémocratique. Parce que le Sénat, ce n'est pas pour remplacer d'abord le chef de l'État.
Non, mais
l'article le dit, mais ouais. Il ne faut pas apprécier l'enjeu. On ne va pas faire les élections sénatoriales pour remplacer le président de la République. Parce que ça, vous mettez dans l'opinion une intention de pushisme. C'est-à-dire que c'est comme si on va au Sénat parce qu'on va décevoir le président ou on va le faire tuer. Non.
Mais c'est la Constitution qui le dit.
Mais la Constitution ne le prévoit pas dans l'esprit où la question là est posée. Parce que la Constitution prévoit des vacances partout, à tous les lieux, à tous les niveaux. Et on pense que lorsqu'un président de la République a été élu, et comme on n'a même pas de vice-président, s'il y a vacances, comment ça se fait? Parce qu'il se peut. On a vu aux États-Unis, Gerald Ford est devenu président de la République parce qu'il n'y avait pas de vice-président élu, il n'y avait rien. Quelqu'un qui n'avait pas été élu est devenu président de la République. Ça peut arriver, mais ce n'est pas par rapport à l'élection. Autre chose, si vous voyez un peu l'âge retenu pour être sénateur, un sénateur est plus âgé d'être plus âgé qu'un député. Ça signifie, comme j'ai dit au commencement, c'est en fait une chambre de sagesse. Parce que pour être député, il faut avoir au moins, être âgé au minimum de, je crois, de 25 ans. Alors pour être sénateur, il faut avoir au moins un minimum de 30 ans. Tu vois, on tient dans la vie, dans la société, nous n'avons pas tous la même importance, nous sommes tous indispensables. C'est une chose. Bon, alors je pense que l'autre question que vous avez posée, c'est le règlement intérieur de la Chambre qui va le préciser. Je ne pense pas que la Constitution ait perdu le temps pour cette question-là.
Il y a aussi Séraphin Amouli de Bukavu, professeur Bioya, qui pose la question suivante. Est-ce que les 4 vice-présidents sont automatiquement sénateurs?
Non. La Constitution dit que seulement les anciens présidents peuvent devenir sénateurs.
Bonsoir, Pamela Mounazo.
Bonsoir.
La première question est posée par Mande Yalolo Norbert de Béni dans la province du Nord Kivu.
Oui, Mande Yalolo Norbert veut connaître le nombre de sièges qu'il y a au Sénat. Et puis il y a Papi Kwangimba de Butembo dans la province du Nord Kivu qui veut savoir si les sénateurs pourront prendre des décisions dans leur territoire sans faire recours à Kinshasa.
Voilà, il y a Philemon Zourawa de Goma dans la province du Nord Kivu qui nous pose également une autre question.
Oui, Philemon Zourawa veut connaître les garanties prises par la CEI pour faire face aux pressions des partis politiques. Et puis il y a Enoch de Goma dans la province du Nord Kivu qui pose la question suivante. Pourquoi l'UN de Jean-Pierre Bemba ne veut pas travailler au gouvernement mais préfère travailler au Sénat? Il y a Mwanga Pascal de Lubumbashi dans la province du Katanga demande si le président du MLC Jean-Pierre Bemba pourra aller au Sénat tout en restant opposant. Enfin, Batambo à Goma, dans la province du Nord Kivu, veut savoir si les sénateurs connaissent leurs fonctions au sein du Sénat.
Monsieur Bernard Likoundé, la parole vous est accordée maintenant pour donner quelques éléments de réponse aux questions de nos auditeurs, notamment des questions relatives au vice-président Jean-Pierre Bemba et à l'Union pour la Nation.
Oui, merci beaucoup. Vous avez parlé, il a parlé du président Bemba. Vous savez, donc, lorsque la nourriture est sur la table, plusieurs sortes de plats sur la table, chacun choisit ce qu'il a besoin. Voilà. Lui, il a choisi d'aller travailler au Sénat. Ça, c'est son choix. Ça ne peut pas être contesté ni imposé par quelqu'un. Lui, il sait pourquoi il doit aller travailler au Sénat. Et les autres ont choisi pour aller travailler au Parlement. Donc, au chambre des représentants, donc au Parlement, comme député. Voilà, je trouve que c'est légitime. Je ne vois pas là où on doit poser la question pourquoi tel est d'appel au Sénat, tel est au Parlement, je dis non.
Voilà, on vous a suivi. Monsieur Fumunzanza, qu'est-ce que vous répondez à nos auditeurs?
Il n'y a pas de contradiction du fait que
Par exemple, Papi Kwangiba de Butembo qui pose la question de savoir si les sénateurs pourront prendre des décisions dans leur territoire sans faire recours à Kinshasa.
La Constitution dit que les sénateurs, comme les députés, votent les lois et contrôlent le gouvernement. Comment ils les font? Les lois, ils les votent en les examinant ensemble en plénière. Ils créent d'abord des commissions, les commissions travaillent et puis le travail est amené en plénière où les articles sont examinés.
Rapidement, s'il vous plaît.
Donc maintenant, on dit également que l'autre tâche du Parlement, c'est de contrôler le gouvernement. Ils contrôlent le gouvernement par des enquêtes parlementaires. Ils ne prennent pas de décision parce qu'ils ne sont pas de l'exécutif. Quand ils font les rapports, en cas de problème, ils soumettent leur rapport à l'exécutif qui doit pouvoir exécuter par rapport à la loi et par rapport aux enquêtes qui ont été menées par les parlementaires.
Monsieur Dieudonné Mirimon, il y a Philemon Zourawa qui veut connaître les garanties prises par la CEI pour faire face aux pressions des partis politiques, notamment dans l'élection sénatoriale.
Ce sont les mêmes garanties, je l'ai dit au cours de cette émission, qu'il y a les témoins, les observateurs qui seront dans les bureaux de vote et il n'y a pas de pression parce que les sénateurs sont élus sur liste ouverte avec l'application de la règle du plus fort reste comme on a élu les députés nationaux. Et donc la CEI ne subit pas de pression. Ceux qui seront élus seront déclarés élus dès que les résultats seront rendus publics.
Professeur, votre mot de la fin, en 30 secondes, par rapport aux réactions des auditeurs.
Non, je crois qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui doivent faire l'effort pour comprendre le fonctionnement du Sénat et du Parlement général. Il faudrait qu'on vulgarise un peu la Constitution en ces matières-là. C'est une question de civisme aussi.
Voilà.
Je voulais en savoir, ils sont 5 et 8, à raison de 4 par province, sauf Kinshasa qui en a 8.
Voilà, merci. Fin de cette émission, vous pourrez la suivre en rediffusion à 4h45 heures de Kinshasa et 5h45 heures de l'Est du pays. Sur Onde Courte, vous pouvez la suivre sur www.radioocapi.net. Sur Onde Courte, vous pourrez la suivre de 5h à 7h sur 11 690 km et sur notre site internet sur www.radioocapi.net. Au revoir et à demain. Thank you.